Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des lieux inconnus du grand public qui sont comme des clairières cachées au fond des bois, des havres d'une paix profonde, des sortes de puits de lumière. Les foyers de charité, lieux de retraite en silence, comptent parmi ces lieux. C'est leur histoire extraordinaire que je vous propose de découvrir ce matin, l'histoire d'un chemin humble et discret qui ouvre pourtant sur les réalités d'en haut. Cette émission Vivante Église, ce matin donc zoom sur les foyers de charité, particulièrement sur le foyer de charité de Notre-Dame de la Cépède avec le père Dominique Bostine. Vous êtes le père de ce foyer, donc foyer Notre-Dame de la Cépède dans le diocèse d'Agen. Bonjour.
Bonjour.
Alors je le disais, vous avez vu, hein, je vous ai fait une introduction élogieuse, hein, c'est... mais c'est vrai que quand on, comment dire, quand on est peut-être dans l'église, les foyers de charité ça parle, mais quand on n'en est pas, ça ne parle pas parfois du tout, et pourtant c'est un vrai trésor, peut-être non seulement au cœur de l'église mais au cœur du monde. Ma première question sera celle-là. En préparant l'émission, je suis tombé sur un article de l'Express où une journaliste en fait probablement s'essayait à des lieux de retraite. C'était, je crois, l'année dernière, je suis en train de retrouver l'article, et tout simplement, elle s'est inscrite à une retraite, elle est venue semblait, avec beaucoup d'ouverture et de bienveillance. Elle s'appelle Leslie Rezoug, c'était en mai 2017, et elle raconte comment elle a cherché sur Internet des lieux de retraite. Elle dit la chose suivante: « J'imaginais qu'il s'agirait pour moi de partir au soleil, me reposer et méditer avec l'aide d'un gourou New Age ou d'un coach en développement personnel, et puis... » Elle tombe sur le site des foyers de charité et elle vient. Alors elle raconte que les enseignements un peu religieux, il y a des moments où ça lui faisait mal au crâne, ou alors elle dit aussi qu'il y avait comme des formes de variations intérieures qui l'ont un peu déstabilisée, mais qu'elle y a trouvé un lieu étonnant de paix et de bienveillance. Est-ce que vous avez beaucoup de gens, ça vous surprend cet article de l'Express, et est-ce que vous avez en fait de plus en plus de gens qui viennent de loin en fait dans vos lieux de retraite?
De fait, on en a de plus en plus, parce qu'il faut reconnaître qu'on n'est plus dans une société chrétienne, de tradition et de culture chrétienne, hein, ça s'effrite de plus en plus. Et donc, on a des chercheurs de Dieu, des chercheurs de l'infini, parce qu'on a ce besoin qui est inscrit en nous. Hein, tout homme a une aspiration à l'épanouissement, à l'infini, et ça, je dirais, comme chrétien, on peut répondre, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, et donc on a cette aspiration qui est en nous de toute manière. Ceci dit, où aller quand on a cette aspiration? Alors c'est là où les foyers de charité, vous avez évoqué, sont comme des petites lumières, mais c'est ce que le Seigneur a demandé à Marthe, il y a de ça très très longtemps, à Marthe Robin. Vous savez,
Alors Marthe Robin, justement, on va y venir, puisque donc je le disais aussi en teasing de l'émission de ce matin, ça serait une demande de Dieu directement en fait que la création des foyers de charité. Alors c'est peut-être difficile à comprendre pour tout le monde, même parfois quand on est chrétien, on se dit mon Dieu, maintenant Dieu parle directement. On pensait qu'il n'avait parlé qu'à Abraham ou à Moïse en fait Dieu. Alors parlez-nous de Marthe. Certains connaissent, je m'excuse pour ceux qui connaissent très bien, mais d'autres probablement ne connaissent pas bien du tout. C'est donc une femme qui est née le 13 mars 1902 à Châteauneuf-de-Gaillard dans la Drôme, d'une famille, on va dire, modeste de paysans. Elle est donc d'une fratrie de 6 enfants, et Marthe est une enfant, on va dire, malade, souffreteuse, comme on disait peut-être à l'époque. Qu'est-ce que vous direz des débuts de sa vie, peut-être avant de rentrer dans...
Alors, Marthe a été atteinte par une épidémie de typhoïde. Elle a failli mourir à ce moment-là. Elle a perdu sa sœur aînée. Et ensuite, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, elle a vécu une vie à peu près normale, hein, comme tous les enfants, bien épanouie aussi. Mais il y a eu une irruption de la maladie avec une phase évolutive d'une dizaine d'années, qui a fait que, elle est arrivée après ses 10 ans comme grabataire, c'est-à-dire qu'elle est restée, elle est pratiquement restée couchée, ou alors elle est du lit au fauteuil pendant une bonne partie de sa vie, et elle est restée complètement immobilisée pendant 50 ans ensuite.
Et donc, en tout cas pour cette partie de sa vie, donc elle vivait dans une chambre un peu dans cette ferme, c'est ça?
Oui, elle était restée dans la ferme de ses parents. Oui.
Elle devenait un peu un poids pour ses parents, si j'ai bien compris.
Alors, elle devenait un poids parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de sécurité sociale. Et donc, pour essayer de soigner, ça n'était pas facile. Ensuite, les parents étaient très pris par les activités de la ferme, ce qui fait que Marthe était souvent seule dans la chambre, effectivement. Et elle a vécu une très grande solitude, en plus, en portant cette maladie. Beaucoup de personnes de l'entourage ne comprenaient pas la maladie de Marthe, ce qui fait qu'on hésitait à aller la voir pour pas être pris par la contagion. On dit soi-même, on pourrait attraper cela, ce qui fait que Marthe était effectivement très seule dans sa chambre. Elle a eu tout de même le soutien de ses parents, de sa maman notamment, qui l'a bien soignée, et ensuite des amis qui sont venus la voir, qui l'ont comprise, qui l'ont de beaux liens d'amitié qui ont été créés. Et ce n'est que bien plus tard qu'on s'est rendu compte de la grâce qui reposait sur Marthe et qu'elle a eu après beaucoup de visites, puisqu'elle a reçu plus de 103 000 visiteurs tout au long de sa vie.
Alors avant ça, donc, il y a eu comme une bascule, si j'ai bien compris, dans sa vie. C'était en 1928, à l'occasion d'une mission donc, de Capucins. C'est donc, on va dire, c'est une branche des franciscains. Oui. Qui était, à l'époque, ça se faisait dans les campagnes. En fait, il y avait des missions comme ça. Donc pendant plusieurs jours, les Capucins sont venus dans le village. Et ils sont montés dans la chambre de cette jeune fille que peut-être les villageois regardaient un peu bizarrement ou dont tout le monde se méfiait. Vous venez de dire que même dans sa famille, je crois que son père commençait à être un peu parfois hargneux hein, avec elle ou agressif ou enfin mal à l'aise probablement avec cette maladie.
Voilà, le papa ne comprenait pas pourquoi son enfant était atteinte à ce point-là. Quoi.
Donc en tout cas, il y a cette mission des Capucins, et là il y a comme une bascule intérieure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors on va à gros traits, on avait fait une émission avec vous par le passé sur Marthe Robin, mais ça peut éclairer quand même. On ne peut pas raconter tout de suite l'histoire des foyers de charité sans cette introduction.
Voilà. Alors, les Capucins ont sans doute dit à Marthe que ce qu'elle vivait était très proche de ce que le Christ a vécu durant sa passion. Et Marthe a compris qu'elle pouvait se servir en quelque sorte de la situation concrète dans laquelle elle était, c'est-à-dire c'est une femme malade, se servir de sa maladie comme d'un tremplin pour, à la suite et avec le Christ, porter le monde et le transformer. Alors, évidemment, pour ceux qui ne sont pas croyants, ça peut être un petit peu extraordinaire, ce genre de choses. Mais, donc, c'est ainsi. En tout cas, Marthe a fait une expérience de rencontre avec le Seigneur. En 1928, donc, la mission paroissiale, les Capucins ont aidé Marthe en la rencontrant, bon, peut-être une ou deux fois. À ce moment-là, Marthe s'est confessée, a communié aussi, mais il faut savoir qu'elle avait déjà une vie de communion forte, une vie spirituelle forte avec le Seigneur. Hein, tout en étant malade, elle avait tout de même une vie spirituelle, mais comme tout un chacun. Mais à partir de 1928, c'est vrai que Marthe est rentrée, on peut dire, dans la vie mystique. Sans doute que les Capucins ont parlé de saint François d'Assise, qui a vécu la passion aussi, qui a été stigmatisé.
Alors stigmatisé, donc ça veut dire que en fait ce saint très connu dans l'histoire de l'Église, peut-être le saint le plus connu en tout cas du grand public, avait donc les traces de la passion sur ses mains, sur ses pieds et sur son côté en fait.
Voilà, c'est cela. Oui, il y a d'autres personnages hein, dans l'Église qui ont vécu cela. Et donc peu de temps après, Marthe est rentrée dans la suite la suite du Christ qui a vécu sa passion, et Marthe a vécu la passion chaque semaine. Marthe a été marquée des stigmates, c'était dans les années 1930, et ensuite très vite la passion chaque semaine, et à partir de là il y a eu une fécondité absolument extraordinaire de la vie de Marthe. Alors quand on parle de la communion avec la passion du Christ, tout de suite on se dit oh là là, ça devait être difficile, etc. C'est vrai, mais c'est une mission qui était très particulière, une vocation très particulière que celle de Marthe. Et ensuite Marthe était très joyeuse parce que elle vivait en communion avec le Christ, et ses souffrances de malade, car Marthe était malade hein, d'une maladie qui avait mal été diagnostiquée et qu'elle a traînée durant toute sa vie, eh bien elle a fait des souffrances de sa maladie comme un tremplin qui l'a rendue ensuite joyeuse et dans la paix, parce que en même temps, elle trouvait sens à sa vie, elle portait le monde Il faut accueillir tous les témoignages de ceux qui l'ont rencontré pour voir combien de vies ont été transformées par une rencontre avec Marthe.
Peut-être vous pouvez citer quelques exemples connus, non ? Parce qu'il y a un certain nombre de grands écrivains, de fondateurs de communautés.
Oui, de fait. Donc il y a beaucoup de fondateurs
de communautés. Qui n'est pas passé voir Marthe, d'une certaine
manière. Qui n'est pas passé voir Marthe, même des cardinaux. Voilà.
Donnez-nous quelques noms peut-être qui peuvent parler...
Alors, vous avez comme philosophe, par exemple, Jean Guiton, hein, c'est connu. Donc, vous avez le père Garrigou Lagrange, qui était un grand spécialiste de la vie mariale, qui a été sidéré par les réponses que Marthe lui donnait. Et Marthe, qui avait beaucoup d'humour, du reste, savait retourner les personnes les plus brillantes, que ce soit au niveau théologique, que ce soit au niveau philosophie aussi. Hein, voilà. Donc, elle accueillait tout à chacun, même des athées. Des non-croyants, elle les accueillait bien volontiers et il y avait des amitiés qui se créaient avec ces non-croyants aussi. Oui.
Voilà, une vie très, très mystérieuse peut-être, hein, très difficile à comprendre, même parfois quand on est chrétien, donc de cette femme qui pendant combien d'années a vécu la passion et ne s'est nourrie que de
l'Eucharistie. Une cinquantaine d'années, disons 50 ans, oui.
Voilà,
oui.
Et donc je le disais ce matin, elle ne se nourrissait pendant ces 50 ans, c'est ça, que de l'Eucharistie.
Que de l'Eucharistie, elle communiait une fois par semaine, c'était l'unique nourriture qu'elle recevait.
Et donc, pendant cette vie mystique complètement hors norme, un jour, elle aurait eu, donc, de la part du Christ, de la part de Dieu, la demande de création des foyers, alors peut-être pas du foyer de charité de Notre-Dame de la Cépède, dans le diocèse d'Agen, peut-être que Dieu n'a pas été aussi précis que ça, mais en tout cas, des foyers de charité. Alors, dites-nous, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a comme trace
Oui, on a ce qu'on appelle le texte fondateur, c'est-à-dire une rencontre que Jésus a eue avec Marthe en 1933, lorsque Jésus a annoncé le renouvellement de toute l'Église qui reposait autrefois davantage sur les évêques, les prêtres, une Église pyramidale, le renouvellement de toute l'Église avec la prise en compte de la vocation du baptisé.
Excusez-moi, juste je fais une pause, mais quand vous dites sa rencontre avec Jésus, ça veut dire qu'en fait, dans ses états mystiques, elle avait comme des visites du Christ, c'est-à-dire elle voyait le Christ.
Oui, tout à fait. Donc elle a eu des apparitions, bien sûr, de Jésus, voilà, qui lui a parlé et qui lui a révélé ce qu'il attendait d'elle et ce qu'il attendait des foyers de charité. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là, en 1933, que Jésus a parlé, je cite, hein, de la grande œuvre de son amour, c'est-à-dire son désir de créer des centres de formation à la vie spirituelle où des laïcs seraient formés parce que ce seraient eux qui seraient les transformateurs du monde et non plus tant comme auparavant les prêtres, les évêques, etc. Mais ce serait en collaboration, bien sûr, avec l'Église hiérarchique, mais la prise en compte de la vocation du baptisé qui devient témoin apôtre au cœur du monde. Et pour cela, il faut qu'il soit formé pour être apôtre. Et c'est pourquoi Jésus a demandé des centres de formation spirituelle que sont les foyers de charité où on donne des retraites de spirituel et en même temps, on peut dire théologique, qui structure la personne et qui lui permet ensuite de devenir apôtre, témoin. Voilà, ça c'était le désir de Jésus manifesté en 1933. Et à partir de là, les foyers de charité sont étendus un peu partout dans le monde.
Pardon de la trivialité de ma question, hein, mais c'est à la fois confortant d'une certaine manière probablement, mais aussi profondément intimidant en fait que de répondre à un ordre de Dieu lui-même, non ?
Alors, c'est sûr que Marthe a une grâce particulière, hein, qui est adaptée à sa situation propre, à ce que Jésus a voulu faire en elle. Après, nous, dans les foyers de charité, c'est sûr qu'on se sent bien petit, bien pauvre. On est conforté parce qu'on se dit, on est au foyer et c'est le désir de Jésus, les foyers de charité. Donc, on va de l'avant, même si, comme tout à chacun dans toute l'Église, il nous arrive parfois de ramer un peu. Hein, mais donc, c'est confortant, c'est vrai. Et en même temps... c'est un peu, je ne vais pas dire déstabilisant, mais impressionnant parce que Jésus avait demandé que tous les membres des foyers de charité soient des saints. Alors, moi qui me connais un petit peu et ceux qui me connaissent se disent, oh là là, il n'est pas prêt d'y arriver.
C'est le critère d'embauche, c'est ça, d'une certaine manière.
Disons qu'il faut essayer d'y parvenir, mais je vous fais remarquer que c'est la vocation de tout baptisé. Le texte du Concile Vatican II nous rappelle que tout baptisé est appelé à la sainteté. Donc ce que Jésus a annoncé à Marthe en 1933 est vraiment pour notre époque, mais c'est pour tout un chacun.
Mais comment vous expliquez ça aux retraitants qui viennent, par exemple, si la journaliste de l'Express venait chez vous, être saint, ça veut dire quoi?
Alors, souvent, quand on pense à la sainteté, aujourd'hui, on se dit, enfin pour les non-croyants, ils se disent, oh là là, ça veut dire privé de dessert, ça veut dire l'ascèse, ça veut dire le renoncement, etc. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, parce que Jésus désire nous combler, mais nous combler de ce qui véritablement nous comble de manière durable, et pas des petites satisfactions passagères qui finalement laissent une immense tristesse au fond du cœur. La sainteté, c'est l'épanouissement, c'est la plénitude de l'amour que l'on reçoit du Seigneur, que l'on peut vivre et partager ensuite.
Donc à la mort de Marthe Robin, Marthe Robin est mort en...
Alors Marthe est mort le 6 février 1981.
Voilà, donc il y avait une cinquantaine de foyers qui avaient été créés, c'est ça?
Oui.
Voilà, aujourd'hui il y en a 76 de par le monde, il y aurait 50 000 personnes qui passeraient par an dans ces foyers. J'ai noté 28 en Afrique, 15 en Amérique, 9 en Asie, 24 en Europe et 13 en France. Et peut-être pour finir, vous avez fait une enquête à l'occasion des 80 ans de la création des foyers qui a été publiée entre autres dans La Croix sur qui vient aux retraites spirituelles des foyers de charité. Alors ça fera écho un petit peu à mon introduction et à ce qui peut paraître un peu amusant, cette citation de cet article de l'Express. Mais semble-t-il, vous avez des retraitants qui changent de plus en plus et de plus en plus de non-chrétiens. Alors, est-ce que ça répond toujours à l'appel que Dieu a adressé à Marthe Robin et à vous indirectement? Et puis peut-être comment vous y prenez? Est-ce que vous pouvez nous prendre un ou deux exemples?
Alors, d'abord, est-ce que ça répond toujours à l'appel? Bien sûr, plus que jamais, puisque les foyers ont été créés pour cela, pour accueillir tout à chacun et permettre que chacun s'oriente vers le Père du Ciel, sachant que c'est là qu'est l'épanouissement. Il n'y a pas d'autre lieu de moyen, je dirais, d'épanouissement que d'entrer dans une relation profonde avec notre Créateur qui nous donne ce dont on a besoin. Oui. Et donc, de plus en plus dans nos foyers, de fait, on accueille des non-croyants, des recommençants, des personnes qui ont cheminé avec un petit bout de zen ou un petit peu du côté de l'islam et qui redémarrent. Et ça, c'est vraiment merveilleux de voir. Il y a un avant, il y a un après. Il faut voir leur tête au début de retraite et à la fin d'une retraite, on sent qu'il y a eu un passage.
Pour finir, avant qu'on fasse une première pause, je voudrais citer cet extrait que j'ai trouvé. C'est donc le Christ qui aurait dit ça à Marthe Robin. « Je me réserve en ces lieux, donc des foyers de charité, une multitude incomparable de grâces que je n'ai jamais encore jusqu'à ce jour répandu dans mon église et que je ne répandrai nulle part ailleurs qu'en ces lieux. » Est-ce que vous pouvez commenter cette parole? Je crois que c'est la première fois que je cite une parole du Christ révélée à un saint depuis que j'ai la charge de cette émission.
Alors,
c'est fou comme parole. En fait.
C'est fou comme parole. Maintenant, c'est aussi très difficile de percevoir la hauteur, la largeur, comme dit saint Paul, la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Souvent, on n'en voit qu'une infime partie. C'est comme un iceberg et tout le reste est caché. Nous, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a une transformation, comme je vous le disais. Après, la profondeur de la transformation, on la voit, ça se découle ensuite au fil des mois, au fil des semaines. On n'a pas toujours tous les retours qu'on voudrait, mais ce qu'on peut dire, c'est que nos foyers sont des lieux de grâce. On n'ira pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de grâce ailleurs. Non, il y a d'autres grâces ailleurs. Mais Jésus dit clairement à Marthe que des grâces particulières seront répandues dans les foyers de charité, et ça, on ne peut pas le retirer.
Thank you. France.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin donc sur les foyers de charité, particulièrement le foyer de charité de Notre-Dame de la Cépède, donc dans le diocèse d'Agen. Ces lieux donc qui auraient été directement voulus par Dieu, par l'intermédiaire, par le Christ, par l'intermédiaire donc de cette grande mystique française, Marthe Robin. Dans cette deuxième partie d'émission, je voulais qu'on détaille peut-être un peu les grandes caractéristiques de ce lieu de retraite. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le lieu en fait d'où vous venez, donc le foyer de charité de la Cépède. Donc je le disais, c'est dans le diocèse d'Agen. Donc c'est à Cailorac Saint-Cirque plus précisément. C'est une espèce de manoir, grande manoir, maison de famille, lieu de retraite. Décrivez-nous un peu ce lieu qui est très beau en fait.
Voilà, alors en fait, on est situé dans la nature et c'était un ancien orphelinat qui était tenu par des sœurs franciscaines pendant plus d'un siècle, qui a été repris comme foyer de charité et transformé, bien sûr, il y a eu beaucoup de transformations. Alors, vous disiez tout à l'heure que les foyers ont été directement voulus par le Seigneur, mais c'est ensuite authentifié par l'Église, c'est-à-dire qu'il y avait aussi le désir, il y a toujours, quand il y a la création d'un foyer de charité, le désir de l'évêque et de l'Église locale d'instaurer un centre spirituel avec les caractéristiques propres des différentes communautés. Là, en l'occurrence, pour le diocèse d'Agen, l'évêque qui était en fonction au moment de la création du foyer de charité souhaitait un centre de formation aussi, débaptisé, un lieu phare, un lieu spirituel. Et il y avait un prêtre du diocèse qui avait ce désir aussi au fond du cœur et qui avait entendu parler de Marthe Robin, qui a rencontré Marthe à Châteauneuf. Et c'est ainsi qu'il y a eu une conjonction entre la grâce propre des foyers de charité, telle que Jésus l'a voulu, et l'appel aussi de l'Église locale. Il y a toujours ces deux aspects qui sont absolument essentiels. Alors pour le foyer de charité Notre-Dame de la Cépède, c'est donc l'évêque d'Agen qui a demandé la création de ce foyer au père Humbert, qui connaissait bien Marthe, et la grâce des foyers. C'est comme ça que ce foyer a commencé.
Alors à quoi ressemble-t-il ? Maintenant, c'est...
Alors d'abord, un foyer.
Décrire cette masure, c'est...
Alors d'abord, c'est pas... Alors oui, alors donc une masure, si vous voulez.
Enfin, je sais pas comment vous dites.
Non, parce que quand vous parliez de foyer, moi je pensais à des personnes.
Ah oui, non.
Donc, voilà.
Les lieux, d'abord.
Alors les lieux...
Sortons un peu du studio, c'est...
Alors, donc on est en pleine nature, à 8 km d'Agen, sur les coteaux qui surplombent la vallée de la Garonne, un peu en retrait de la vallée. Et donc, on peut, si on veut, marcher très facilement dans la nature sans être dérangé par le bruit des villes. Le bâtiment est donc, on a une cinquantaine de chambres, disons, on est en train d'en construire là davantage. Donc, on en aura davantage et on en construit parce qu'on souhaiterait développer des retraites pour des familles. Et quand on a des enfants en plus, donc ils occupent bien le terrain, c'est le cas de le dire. Et donc, on a cette nécessité d'agrandir. Il faut savoir, puisqu'on a évoqué Marthe aussi, que Marthe a souhaité que ce soit en ce lieu, à la Cépède, à Cailorac Saint-Cyr, qu'ait lieu la création du foyer. Le père Humbert avait cherché dans une vingtaine d'endroits, je crois, dans le diocèse, dans le département.
Vous voulez dire qu'avant la création de chaque foyer, en fait, vous alliez trouver Marthe Robin?
Quand elle était vivante, oui.
On lui demandait si c'était le lieu que Dieu
voulait. On lui demandait son avis, simplement, quoi. Hein. On lui demandait son avis. Alors, elle disait oui, elle disait non. Et puis, voilà. Donc, dans cet échange, dans cette discussion, c'est comme ça que la lumière se faisait. Et le père Humbert avait cherché, je crois, en une vingtaine d'endroits. Et à chaque fois, quand il allait voir Marthe, visiblement, c'était pas ça. Et quand il a trouvé cette maison des sœurs franciscaines qui était à vendre à ce moment-là, donc il en a parlé à Marthe, il a bien décrit les lieux, et puis tout de suite Marthe a dit oui, c'est cela, et c'est comme ça qu'on a foncé. Voilà. Marthe a même parlé de la création d'une centaine de chambres dans ce lieu. Alors il faut
c'est
pas désespérer.
C'est en cours. Alors parmi les grandes caractéristiques de ces lieux de retraite, que sont les foyers de charité, je voulais qu'on insiste sur quelques points qui peuvent mettre en relief ce qui se vit. La première chose, c'est la place du silence. On ne l'a pas dit pour l'instant. Mais j'ai souvenir, et je le disais ce matin dans le teasing de l'émission, qu'en fait, la demande de Dieu aurait été encore plus précise, c'est-à-dire qu'en fait, ça devait être des lieux de retraite, mais en silence, pendant 5 jours, et que le prêtre accompagnateur de Marthe Robin, à l'époque, le père Finet, aurait été lui-même assez surpris, se demandant comment les gens allaient faire pour tenir 5 jours en silence.
Racontez-nous exactement,
cette,
oui.
Cette place
oui,
du silence.
Oui, c'est vrai, ça c'était une nouveauté que le Seigneur a demandé dans la grâce des foyers de charité, les retraites en silence. C'est absolument, maintenant on peut dire, indispensable si on veut une vraie rencontre avec le Seigneur pour faire taire le bruit, parce qu'il y a le bruit de la ville, il y a le bruit de notre vie quotidienne, des journées très stressantes, et puis tout cela continue de chahuter au fond du cœur, même quand on veut aller un petit peu à l'écart pour se poser, pour prendre du repos, on voit tout ce remue-ménage qu'il peut y avoir dans notre esprit. Donc il est absolument indispensable d'apprendre à faire taire tout cela, donc aller un petit peu à l'écart. Alors le premier jour, c'est peut-être un petit peu difficile de rentrer dans ce silence. À
cause comment de ce vous faites, que je viens vous faites de dire. Comme à l'entrée de certaines écoles, vous prenez tous les téléphones portables et vous mettez dans une grande bassine ou...
Ça pourrait être une solution, je n'avais pas pensé, mais effectivement, ça éviterait de sonner à la chapelle ou là où il ne faudrait pas. Mais non, chacun rentre bien volontiers dans la dynamique qui est proposée, parce qu'il y a un désir au point de départ. Hein. Et ceux qui viennent savent que le Seigneur est capable de réaliser quelque chose, ou alors c'est parce que, même si c'est des non-croyants qui viennent, ils ont besoin d'un plus dans leur vie, il y a un mal-être, un malaise, et ils ont entendu parler que là, on peut suivre un temps de vie spirituelle pendant une semaine, et que ceux qui y sont allés en reviennent avec du bénéfice, avec une transformation. C'est pour ça qu'ils viennent, et donc ils jouent le jeu.
Alors si vous permettez, je vais à nouveau citer cet article donc, paru dans l'Express en mai dernier de Leslie Rézou. Je le dis parce que ça m'a aussi surpris par la bienveillance du ton de cette journaliste qui parle du silence. Alors elle dit « Dans le train, je commence à angoisser à l'idée de ne pas pouvoir communiquer avec les autres retraitants ou de ne pas pouvoir utiliser mon téléphone portable, etc. » Et puis, un peu plus loin, elle parle du petit déjeuner. Elle dit « Après la messe, le petit déjeuner se fait en silence, mais bercé de musique classique. » Donc, il faut imaginer qu'on est avec d'autres retraitants en silence. Je le dis parce que vous en êtes familier, mais au début, ça peut surprendre. « C'est une épreuve que je redoute, mais qui étonnamment se passe très bien. Ne pas parler permet presque paradoxalement d'être plus attentif aux autres, etc. etc. » Les premiers bienfaits indirects du silence, c'est quoi? C'est d'apprendre tout simplement qu'on peut se tenir en silence sans que ça soit une catastrophe.
Mais cette journaliste a vu juste, en tout cas, parce qu'effectivement, on peut rentrer en relation avec les autres d'une manière beaucoup plus profonde que par un flot de paroles. Et ça, c'est une expérience que les retraitants découvrent à partir du deuxième ou troisième jour de retraite, en gardant le silence dans la salle à manger, puisqu'on l'a évoqué là. Il y a une communion qui est établie, ce qui fait qu'à la fin de la retraite, quand on peut parler, quand on peut échanger enfin, eh bien, c'est comme si on s'était connu depuis toujours. Quoi. Alors qu'on ne sait pas parler. Et je crois que beaucoup ont découvert au cours de cette semaine qu'ils avaient à côté d'eux des frères et des sœurs. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Donc c'est une expérience d'église. L'église, ce n'est pas une structure. L'église, c'est un corps qui est habité, qui est animé avec différents membres. On se soutient les uns les autres. Donc ils ont fait une expérience d'église très forte. C'est vrai, il y a eu les enseignements. C'est vrai, il y a eu la communauté qui les accueillait, qui était à leur service. Donc il y a eu tout cela. Mais en même temps, ensemble, comme retraitants, ils ont fait une expérience d'église.
C'est fort ce que vous dites, hein. C'est-à-dire que c'est dans le silence qu'on passe de inconnu à frère et sœur, d'une certaine manière presque.
Tout à fait, oui.
Il n'y a pas que du silence, évidemment, dans les fonds de charité, on ne fait pas que ça. Mais...
Non, celui qui donne les enseignements, lui, parle.
Et plus profondément, pourquoi 5 jours?
Alors, figurez-vous que la Sainte Vierge a dit à Marthe qu'il faut 5 jours pour transformer une âme, pour transformer un cœur.
Puisque donc Marthe Robin avait non seulement des visites du Christ,
mais aussi de la Sainte Vierge. Alors ça, on peut vraiment dire chaque semaine dans sa chambre, plusieurs fois par semaine.
Et ça a été authentifié par l'Église.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez que l'évêque du diocèse et les évêques successifs du diocèse de Valence, puisque Châteauneuf-de-Galaure se trouve dans la Drôme, eh bien, on mandatait le curé de la paroisse pour veiller sur Marthe, pour l'épauler, pour la guider, voilà, pour la soutenir. Le père Finet, qui a commencé le foyer de charité avec Marthe, était délégué aussi par le cardinal de Lyon et aussi par l'évêque de Valence pour cela. Non, et les évêques étaient dans la chambre de Marthe aussi. Quand Marthe a vécu sa passion, vous aviez l'évêque de Valence qui parfois était là aussi pour soutenir Marthe et qui, tout cela est bien authentifié.
Donc, en tout cas, la Vierge Marie aurait dit donc, il faut 5 jours à mon fils pour saisir une âme, c'est ça ?
Voilà, oui. Alors, nous, comme on ne sait pas trop les tenants et les aboutissants de la vie spirituelle, on se dit, dans le fond, on peut le vivre puisque la Sainte Vierge le propose. Bon, essayons, et puis ça marche.
Alors l'autre point peut-être, c'est parmi les types d'enseignements, c'est-à-dire qu'il y a de multiples types de retraites, mais il y a ce qu'on a, c'est un peu, j'allais dire, votre marque de fabrique, il y a ce qu'on appelle les retraites fondamentales. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont ces retraites fondamentales ? Quel type d'enseignement est donné ? Et puis les enseignements, enfin, par qui sont-ils donnés ?
Alors d'abord, par qui sont-ils donnés ? D'abord par les pères de foyer, qui sont responsables des foyers. Et puis aussi, il y a d'autres intervenants extérieurs qui découvrent ce que peut être une retraite fondamentale et le bien que ça peut faire aux retraitants. Et donc, ils jouent le jeu. Et on a de plus en plus de prédicateurs qui sont rentrés dans cette dynamique.
Et qui viennent des quatre coins de la France.
Et qui viennent, effectivement.
Ils sont choisis pour leur qualité, souvent de...
Voilà.
Prédicateur, tout simplement.
Leur qualité de prédicateur ou leur disponibilité aussi. C'est pas toujours facile de. La plupart des intervenants sont des prêtres et c'est pas toujours facile de se libérer de leur ministère habituel. Mais ceux qui jouent le jeu sont en tout cas heureux de revenir après parce qu'ils ont vu à quel point ça peut être bénéfique.
Donc ces retraites fondamentales, pourquoi est-ce que ça peut être pourquoi ça s'appelle retraite fondamentale?
Eh bien, fondamentale parce qu'elle présente les fondamentaux, on peut dire, de notre vie chrétienne. Qui va dans le sens de l'épanouissement, c'est un mot que j'ai utilisé plusieurs fois, je me rends compte depuis le début de l'émission, qui va dans le sens de l'épanouissement de la personne. La personne a besoin d'être structurée, d'avoir des balises dans sa vie pour aller de l'avant, pour garder l'équilibre, pour rester en paix, et puis dans une dynamique spirituelle pour entrer dans cette relation avec le Père du Ciel, sachant que c'est ce qui nous donne précisément l'équilibre, c'est lui qui nous le donne, il est notre créateur. Alors, donc, on donne les balises essentielles. J'aime pas utiliser le terme credo, je l'ai évoqué avec vous avant de commencer l'émission, parce qu'on s'imagine que les enseignements vont nous faire entrer dans une forme de dogmatisme, etc. C'est pas ça du tout, vous voyez. Simplement, quand vous prenez tout le déroulement du credo, on vous présente là les éléments essentiels pour l'épanouissement de tout un chacun.
Alors, donnez-nous peut-être un ou deux exemples.
Eh bien, quand on dit, par exemple, je crois en Dieu, le Créateur. Bon, alors évidemment, on ne va pas présenter les choses comme cela, mais quelle est l'aspiration profonde de notre vie ? Pourquoi on a été créé ? Est-ce qu'on vient comme ça dans le monde, comme un champignon après une pluie d'orage ? Ou est-ce que j'ai été voulu de toute éternité ? Voyez, quel est le sens de ma vie ? D'où je viens ? Où est-ce que je vais ? Pour qu'un arbre puisse trouver son élan, on peut dire, toute sa stature, eh bien, il faut qu'il y ait des racines profondes. Or, les racines, c'est qui ? C'est notre Créateur. Vous voyez ? Donc, à partir aussi de ce qu'on ressent profondément dans notre vie, notre aspiration profonde, eh bien, on peut alors découvrir qu'on a un Créateur et que voilà, qu'il donne sens, qu'il me structure. Je crois en Dieu le Créateur, donc à partir de là, il y a tout le respect de l'environnement, il y a tout le sens de la bioéthique, le respect de la vie. Donc tout cela est évoqué, est abordé au cours d'un enseignement, par exemple quand on évoque notre Dieu Créateur. Voilà. Et puis il y a tous les autres éléments, vous pouvez faire défiler tous les points du credo, on ne va pas présenter un enseignement dogmatique, mais ce qui donne sens à ma vie et qui répond aux aspirations profondes de mon cœur.
Voilà, c'est comme, on va dire, le kit de base de la vie chrétienne, en fait, quelque part. C'est, si on doit dire ça de manière très grossière. C'est...
Voilà, disons qu'on ouvre les portes pour ensuite approfondir et approfondir dans la bonne direction.
Peut-être la dernière grande caractéristique des foyers de charité, c'est que c'est des lieux de retraite, en fait, qui ont un esprit très, très familial et où prime une forme de simplicité. Il y a, par exemple, parfois, pendant les déjeuners ou les dîners en silence, des espèces de sketchs qui sont diffusés. Enfin, moi, ça m'est arrivé, en tout cas, j'ai une confidence. Il ne faut pas parler de soi à la radio, mais d'entendre l'un ou l'autre. Enfin, en tout cas, il y a une ambiance, familiale et un peu festive. Est-ce que vous pouvez décrire cela ?
Alors, l'ambiance festive, on la retrouve davantage à la fin de la retraite, parce qu'il y a eu un passage qui a été réalisé, et donc on est beaucoup plus en paix, et quand on donne des témoignages à la fin, si on veut donner un témoignage de ce qu'on a vécu, c'est sûr qu'il y a une ambiance qui est très, très décontractée. Mais non, autrement, on reste en silence dans tout le déroulé de la retraite.
Alors, familial, ça tient aussi à la composition des foyers. Est-ce que vous pouvez décrire peut-être la manière dont les foyers sont constitués ?
Tout à fait. Donc, quand vous avez évoqué tout à l'heure le cadre, le lieu, le foyer, moi, je pensais immédiatement à la communauté. Vous pensiez d'abord au lieu, aux pierres qui sont là pour accueillir les retraitants. Alors, en fait, les pierres qui accueillent les retraitants, c'est d'abord des pierres vivantes. Voilà, c'est une communauté. Il y a des membres qui sont engagés pour l'accueil des retraitants.
Et qui donnent leur vie pour ça.
Et qui donnent leur vie pour cela, oui, sont des engagements, donc une vie consacrée à vie. Donc on vit un engagement au bout de 3 ans ou 5 ans de présence. Voilà, c'est ratifié ensuite par la communauté. Alors c'est comme une vie religieuse, mais les membres du foyer ne sont pas des religieux. C'est-à-dire on ne les met pas dans la congrégation romaine des religieux. Mais ils sont des laïcs engagés comme tout à chacun, mais au lieu d'être au cœur du monde, en ayant un travail dans le monde, eh bien leur travail à eux, c'est d'accueillir les retraitants pour qu'ils vivent une bonne retraite. Et alors ils sont au four et au moulin, et en même temps certains membres sont formés pour donner des enseignements, ça arrive, ou bien pour l'accompagnement spirituel des retraitants. Il n'y a pas que les prêtres qui peuvent faire de l'accompagnement, mais il y a aussi des laïcs et des membres de foyer qui le vivent.
On va faire une deuxième pause musicale et puis après vous allez nous donner un exemple, un petit digest en fait d'une retraite que vous donnez et peut-être quand c'est pas une retraite, d'un topo que vous donnez à l'occasion de chaque retraite sur la prière de Jésus. On vous retrouve tout de suite après cette deuxième pause.
Dans la Haute-Ariège, 92.7.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin donc sur les foyers de charité, entre autres le foyer de charité donc de Notre-Dame de la Cépette dans le diocèse d'Agen. Si vous nous prenez en cours de route, nous sommes avec le père Dominique Bostine, père de ce foyer de charité, donc les foyers de charité, lieu de retraite fondé à la demande de Marthe Robin, grande mystique française. Nous a expliqué le père Dominique Bostine, semble-t-il, directement demandé par le Christ à cette femme. En cette fin d'émission, je voulais, dans le temps qui nous reste, il nous reste 10 grosses minutes, peut-être que vous nous donniez un exemple de ce qu'on pourra trouver. Alors, on n'a pas le lieu, la beauté du lieu, la nature que vous nous avez décrite, et cette ambiance, aimante, familiale et spirituelle, parce que vous êtes venu tout seul, sans les murs et sans les pierres vivantes. Mais toujours est-il que vous donnez souvent quelques-unes de ces retraites. Et donc, il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la prière de Jésus. Alors, vous pouvez nous dire peut-être déjà pourquoi elle vous tient à cœur, quand elle a lieu, et semble-t-il vous la distillez tout au long de l'année.
Alors effectivement, donc il y a une ou deux retraites par an qui est centrée sur la prière de Jésus, mais pas uniquement. C'est-à-dire c'est un petit peu le terme de la semaine. C'est une retraite qui est présentée pour mieux rentrer dans ce qu'on appelle l'oraison, c'est-à-dire l'union à Jésus. Alors, on part de la tradition des pères de l'Église, la tradition carmélitaine, la tradition ignatienne, la tradition de l'école française. Alors, tout ça, c'est du jargon pour ceux qui ne connaissent pas trop, hein, mais il faut venir pour découvrir, je dirais. Et puis, on arrive à rentrer dans une communion, dans la prière avec le Seigneur. Et à partir de là, j'évoque toujours la prière de Jésus, qui est la prière des premiers chrétiens et de ce qu'on appelle les pères du désert, qui répétaient doucement au fond du cœur « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur » pour vivre ce que Jésus conseillait à ses disciples de prier sans cesse, qui est repris par saint Paul. Cette prière continuelle qu'on peut vivre au long du jour ensuite ne déconnecte pas de la réalité, mais au contraire nous permet de coller davantage aux activités de notre vie quotidienne.
Alors, je vous arrête tout de suite, oui. je fais le béotien à dessein, mais ça tombe bien parce que je le suis aussi. Quand vous dites ça ne nous déconnecte pas, c'est-à-dire en fait, donc vous apprenez aux retraitants à rentrer dans cette prière, qui est donc la formulation de la phrase que vous avez citée. Déjà, on peut se dire, en fait, ça nous invite à une forme de dédoublement intérieur, c'est-à-dire qu'à la fois on fait les choses et en même temps on est un peu ailleurs, non ?
Non, c'est tout le contraire. On fait les choses et on est pleinement dedans. Mais on les fait avec le Seigneur, j'ai envie de dire par lui, avec lui et en lui. C'est-à-dire on vit toute chose en même temps dans la relation avec l'amour du Seigneur. Donc on vivra toute chose aussi par amour. Et c'est là la différence avec ce qu'on peut vivre autrement. On peut courir après une multitude d'activités et finalement au lieu de les vivre, de bien les saisir, les appréhender, ces activités, on en est souvent comme débordé et on vit une forme de harcèlement tout au long du jour. Alors tout l'art, je dirais, c'est d'arriver à vivre ces activités dans la paix. Or le Seigneur est le prince de la paix, donc de les vivre avec lui. Et la répétition d'une prière brève, d'une invocation très brève, ça c'est toute l'expérience des pères du désert, permettent de vivre toute chose avec Jésus. Voilà.
Alors, vous, en préparant l'émission, vous me disiez que peut-être il y avait trois points sur lesquels vous insistez à propos de cette prière de Jésus. C'est donc qu'elle fait entrer dans la communion à Dieu. C'est une arme dans le combat spirituel et c'est petit à petit un chemin de guérison intérieure. Alors, la communion à Dieu, ça vous avez commencé à nous le décrire. Est-ce que vous pourriez peut-être prendre un exemple, vous, ou une autre histoire qui vous viendrait en tête, de l'avant et de l'après de la vie avec cette espèce de mantra, mais ce serait évidemment très malvenu.
Non, enfin, c'est pas un mantra, non, voilà. C'est le nom de Jésus. Donc il y a la puissance du nom de Jésus. Vous savez très bien que quand vous aimez quelqu'un et que vous prononcez son nom, ça vous fait quelque chose. Et en même temps, vous entrez dans la relation avec la personne. Eh bien, il en est de même pour la présence de Jésus qui a dit « Et moi, je suis l'Emmanuel ». Ça veut dire Dieu avec vous, avec nous, et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il nous accompagne instant après instant. La difficulté, c'est que nous, on vit toute chose en dehors de lui. Alors, l'effort, c'est d'essayer de se reconnecter à la présence du Seigneur qui nous accompagne instant après instant. Et tout le travail, en quelque sorte, qu'on aura à vivre, ce sera d'essayer de vivre sous son regard, en sa présence. Vous avez un verset de psaume, que je me lève ou m'assois, Seigneur, tu le sais, mes chemins te sont tous familiers. Derrière et devant, tu m'en sers, tu as posé sur moi ta main. Eh bien, quoi qu'on fasse, où qu'on aille, le Seigneur nous accompagne, il est avec nous. Et ça, je dirais, ça donne une paix absolument extraordinaire quand on arrive à le vivre. Donc, on entre en communion avec Jésus. Alors, en quel sens est-ce que ça peut apporter un plus aussi? C'est qu'il y a un lien entre cette prière de Jésus, cette communion avec lui, et ce que j'appellerais le combat spirituel, ou bien la guérison intérieure.
Alors, dites-nous.
Alors, donc peut-être un exemple. Alors, je vais donner un exemple personnel parce que le temps passe et ce sera peut-être plus commode de donner un exemple. Figurez-vous que lorsque j'étais dans une autre communauté, il y a de ça très très longtemps, je m'étais disputé avec quelqu'un. Vous voyez, ça arrive. Bon, même un prêtre peut se disputer avec quelqu'un. Et je gardais ça au fond de mon cœur et à chaque fois que je croisais la personne, dans les couloirs ou ailleurs, j'avais toujours des noms d'oiseaux qui me venaient au fond de l'esprit. Et je me disais, enfin, on ne peut pas continuer comme cela. Quoi. Bon, ça allait un petit peu, mais en même temps, ça m'était mal à l'aise dans la personne, et puis par le fait même avec tous les autres. Et je découvrais, parallèlement à cela, la grâce de la prière de Jésus, que je priais un petit peu en dilettante. Et en même temps, bon, à certains moments, d'une manière plus forte. Et au bout de quelque temps, je me suis dit, maintenant, ça suffit, tu ne peux pas garder ces mauvaises pensées vis-à-vis de ce frère, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Et à chaque fois que venait un nom d'oiseau, c'est-à-dire quand je croisais le frère en question dans les couloirs, eh bien, je prenais la prière de Jésus, que je répétais une dizaine de fois, une vingtaine de fois. Bon. Et au bout de quelques minutes après, à nouveau, le nom d'oiseau en question. Eh bien, je reprenais la prière de Jésus 10 fois, 20 fois. Quelques temps après, une demi-heure après, le nom d'oiseau revient à nouveau. Je reprenais la prière de Jésus. Et c'est ainsi que, progressivement, j'ai pu vivre d'une manière concrète ce que les pères du désert enseignent, c'est-à-dire qu'on peut être vainqueur des mauvaises tentations. Et vous savez que le tentateur, le malin, il agit toujours au niveau des suggestions.
Le tentateur, le malin, c'est le diable.
C'est le diable, voilà. Il agit toujours dans ce qu'on appelle les tentations, les mauvaises, c'est toujours par le biais des mauvaises pensées. Eh bien, le meilleur moyen de lutter contre ces mauvaises pensées, c'est ce qu'enseignent les pères du désert, et ça, on peut en faire l'expérience, c'est de plonger dans le Seigneur, dans sa présence. Et la répétition de la prière de Jésus, dans ce cas-là, anéantit en quelque sorte la mauvaise suggestion. C'est tout simple. C'est Jésus qui a eu la victoire. C'est pas nous qui l'avons eu sur le calvaire, la victoire. C'est lui, en notre nom à tous. Donc, quel que soit le poids, le fardeau que l'on porte ou la tentation, de plonger en Jésus, ça nous libère. Et nous donne une force qui dépasse infiniment tout ce qu'on peut imaginer.
Donc de
répéter cela quand on a une tentation, par exemple, ou une difficulté. Et moi, je fais cette expérience concrète que, au bout d'un certain temps, c'est vrai, je me rappelle une nuit où j'ai dit « maintenant, c'est terminé, tu rejettes ces mauvaises pensées que tu as contre ce frère ». Et chaque fois que la mauvaise pensée revenait, eh bien, je redisais la prière de Jésus. Et je me rappelle d'un combat, j'ai vécu comme ça 3-4 heures à prier, à revenir sur la prière durant la nuit, jusqu'à un moment où j'ai senti une grâce de paix qui m'a envahi, une paix qui vient d'ailleurs, véritablement. On reconnaît l'arbre à ses fruits, parce que d'abord je me suis endormi, qui est une bonne grâce pendant la nuit, et ensuite les jours suivants, eh bien, à chaque fois que je rencontrais le frère, je n'avais plus du tout un regard négatif, mais au contraire un immense regard de miséricorde et de compassion pour lui, et donc la relation rétablie. Fort de cette expérience, eh bien, je me suis dit, ce que ont vécu les pères du désert, vraiment, c'est juste, et ça va très bien pour nous aujourd'hui, voilà.
Peut-être le dernier point, c'est donc la guérison intérieure, c'est-à-dire que derrière le combat, en quoi ça guérit, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, par exemple, imaginez une personne qui a une difficulté parce qu'elle est jalouse et dans sa famille, eh bien ça amène de plus en plus de tensions, peut-être avec son mari, avec d'autres personnes de l'environnement. Bon, la personne va se confesser, par exemple, mais finalement, elle retombe toujours dans ce travers de jalousie. Alors, la jalousie en tant que telle, c'est pas un péché. C'est quelque chose qui vient, qui surgit au fond du cœur et que vous ne contrôlez pas. C'est-à-dire que c'est lié à une blessure. Une blessure, et souvent, je pense que les auditeurs peuvent comprendre que la plupart des blessures qui sont liées à la jalousie viennent de la petite enfance. Vous prenez par exemple, un garçon qui a 3 ans, et puis arrive un petit frère. Alors, papa et maman savent très bien qu'il faut être très attentif à l'aîné, parce qu'autrement il risque d'avoir, de se sentir abandonné par les parents qui sont davantage attentifs aux nouveaux venus. Et l'enfant, peut-être à un moment donné, sans que les parents y prennent garde, l'enfant va être jaloux du petit frère qui vient d'arriver. Et le problème, c'est qu'on peut grandir avec ces blessures de jalousie, ce qui fait qu'à l'âge adulte, elles demeurent et elles sont constamment réactivées. Alors comment en être libéré ? Eh bien là aussi, la grâce de la prière de Jésus est vraiment une belle grâce dans ces cas-là. Chaque fois qu'est ravivée la blessure de jalousie, il faut remettre en situation, se dire pourquoi est-ce que je réagis comme cela de manière un peu démesurée. C'est vraisemblablement parce qu'il y a la blessure de l'enfance qui est ravivée. Et vous répétez, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le combat spirituel, la prière de Jésus chaque fois que la blessure est ravivée. L'expérience montre qu'au bout de plusieurs mois, alors que la personne n'arrivait pas à être libérée de cela, au bout de plusieurs mois de cette prière de Jésus que l'on prend chaque fois que la blessure est ravivée, il y a une grâce de pacification et de guérison qui est obtenue.
Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être les une ou deux prochaines retraites pour finir ? Il nous reste à peine 30 secondes.
Alors, on a des retraites tout au long de l'année, donc c'est difficile de choisir. On a des retraites pour des familles, particulièrement l'été.
Alors, juste une, et je donnerai après l'adresse du site internet.
Alors, une, eh bien, la retraite entre Noël et Nouvel An, voilà, c'est-à-dire entre le 26 décembre et le 31 décembre, où là, on prend l'évangile de Saint-Marc, c'est moi qui donnerai les enseignements, et on se met à la suite du Christ, et à partir de là, eh bien, on peut dire qu'on évoquera tous les éléments essentiels de notre vie chrétienne.
Voilà un site internet, l'ACPED, sans accent, l'ACPED.foyerdecharité.fr, l'ACPED.foyerdecharité.fr. Et pour le numéro de téléphone, si par hasard vous n'avez pas de quoi chercher sur internet, et bien vous appelez Standard de Radio Présence et on se fera un plaisir de vous le donner. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Radio Présence.
Merci à vous.
Nous parler de ces havres de paix et de lumière que sont les foyers de charité. Merci beaucoup. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.